Bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Laure Gazaigne. Alors, après un parcours de réa, j'ai atterri en unité de soins palliatifs pour mon plus grand plaisir. Et donc, j'ai la chance de travailler dans l'unité de soins palliatifs des Diaconesses, Paris 12e. Et on m'a demandé de venir vous présenter un peu notre hôpital de jour de soins palliatifs. Alors, merci pour l'invitation, parce que déjà, on parle beaucoup d'accompagnement de fin de vie en ce moment, au niveau politique, et de pouvoir mettre un peu la lumière sur ce type de prise en charge. Je trouve ça plutôt bien et c'est un vrai, vrai plus pour nos patients. Et alors, ma présentation, elle va être très pratique. Je vais vous présenter un petit hôpital de jour, parce qu'on a des présentations de très, très grosses structures. Donc, nous, c'est plutôt deux lits dédiés, avec une population très particulière, des patients en soins palliatifs. Alors, ça veut tout dire et rien dire. On a vraiment des profils très différents. Donc, soins palliatifs des maladies incurables, mais avec des patients qui ont parfois encore un certain nombre de lignes thérapeutiques derrière, et donc une espérance de vie qui peut être de plusieurs années. On parle parfois de maladies chroniques maintenant pour certains types de cancers. Et puis des patients qui sont vraiment en fin de vie, avec une prise en charge qui va être tout à fait différente. Et vous allez voir, notre hôpital de jour, il est vraiment centré sur le patient, et donc parfois avec un fonctionnement un peu spécifique que je vais vous présenter. Alors, juste pour les passer, hop, voilà. Juste pour faire un petit état des lieux, donc la Corpalif, c'est notre cellule d'animation régionale des soins palliatifs d'Île-de-France, et elle a créé un site sur lequel sont répertoriées toutes les structures. Et alors, en Île-de-France, à l'heure actuelle, il existe 5 structures d'hôpitaux de jour soins palliatifs référencées, en sachant que l'Institut Curie, bon, ça a été les premiers, d'ailleurs notre HDJ s'est inspiré d'eux. Notre hôpital à nous, l'hôpital de jour à Bivennes, donc au Diaconesses. L'hôpital d'Argenteuil, qui fonctionne un peu sur le même fonctionnement que nous, et deux toutes nouvelles structures, puisque les hôpitaux de jour sur l'hôpital de Cognac-Jay et la maison médicale Jeanne Garnier sont nés il y a peu de temps, et je crois qu'ils cherchent encore un peu leur marque. Le fonctionnement d'un hôpital de jour soins palliatifs, il est très codifié. Il est codifié par la dernière instruction interministérielle, la DGOS, de 2023. En particulier, l'annexe 5 est vraiment dédiée à l'hôpital de jour. Alors, la prise en charge, c'est de l'ambulatoire, c'est une prise en charge globale, et on va en discuter. Ça, je vais passer un peu rapidement dessus parce que ça vous parle sûrement, mais vraiment pour le patient en soins palliatifs, il faut une prise en charge globale et pluridisciplinaire avec un rythme qui peut varier. Ça va être une de nos difficultés. Les objectifs, un patient en fin de vie, il a forcément besoin d'une évaluation clinique régulière parce que son état se dégrade au fur et à mesure de la prise en charge, les symptômes apparaissent. C'est aussi, au niveau psychologique, une période de vie très compliquée pour lui, mais aussi pour les aidants. Et je vais en parler un peu parce que nous, les aidants, ils font partie de la prise en charge de nos malades. Une prise en charge sociale, vraiment l'objectif de l'hôpital de jour, c'est un maintien à domicile le plus longtemps possible. Et vous n'y arriverez pas si vous n'aidez pas les aidants et si vous n'adaptez pas le domicile. Et donc le but, c'est vraiment de pouvoir proposer toute cette prise en charge avec des psychologues, des kinés, une assistante sociale qu'on a la chance d'avoir. Et donc il y a forcément une adaptation au niveau des traitements. Forcément, on reste un lieu de soins et certains gestes techniques. Vous verrez que dans notre hôpital de jour, c'est un peu notre particularité et ça participe à la complexité, c'est qu'on a des gestes qui sont parfois très pointus. Une grosse part de notre hôpital de jour va être quand même de la discussion. On parlait tout à l'heure de prise en charge plus humaine. En hôpital de jour de soins palliatifs, si vous ne prenez pas le temps de discuter avec les patients, ça ne marchera pas. Et c'est vraiment un moment fort d'échange sur quels sont, alors évidemment, la personne de confiance, les directives anticipées, mais surtout les souhaits du patient pour sa fin de vie. Parce qu'une fin de vie souhaitée à l'hôpital et une fin de vie souhaitée à la maison, ça ne sera pas du tout la même prise en charge en hôpital de jour en amont. Et ça prend du temps et de l'énergie. Soutenir l'entourage, je vous l'ai dit, mais les aidants, sans aidants à la maison, une fin de vie ne peut pas avoir lieu à la maison. D'anticiper les besoins, vraiment notre objectif, ça va être que nos patients ne finissent pas sur un brancard aux urgences pendant 12 heures. On n'y arrive pas forcément, c'est souvent vécu comme un échec, mais en tout cas, notre mission, ça va être d'anticiper le plus possible. et parfois d'hospitaliser quand le domicile ne tient plus, ce qui pose aussi certaines problématiques. Et puis, bien évidemment, qui dit maintien à domicile dit coordination. Hein. Alors, le monde médical en ville, les médecins traitants qui vont à domicile, on n'en a plus beaucoup. Mais si on ne se coordonne pas avec les HAT, avec les SIAD, avec les infirmiers libéraux, le domicile ne tiendra pas longtemps. Alors, en pratique, ça n'a pas été toujours très simple. Je vais vous présenter un peu la structure dans laquelle j'ai la chance de travailler. Donc, le groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon, qui est donc Paris 12e, c'est un ESPIC. On a une unité de soins palliatifs et une offre de médecine palliative assez diversifiée, donc déjà une hospitalisation classique avec 20 lits. Et puis, alors, la particularité de notre secteur, de notre hôpital, c'est qu'on est sur deux lieux différents d'activité. Donc, la majeure partie des services sont sur un autre site, et sur le site de Reuilly, qui est le nôtre, nous avons la maternité et l'unité de soins palliatifs. On naît et on meurt sur le site de Reuilly, voilà. Mais ce qui pose quelques soucis, parce que par exemple, il avait été plus ou moins envisagé que les SDJ de soins palliatifs soient couplés avec les autres, et le fait que les activités ne soient pas sur les lieux identiques ne le permet pas. Donc on a une équipe mobile de soins palliatifs qui va sur le deuxième site pour aider les différents services. Notre hôpital de jour dont je vais vous parler, qui a été créé en 2012. Et puis, comme on est quand même vraiment tourné vers la médecine de ville, le réseau de soins palliatifs qu'on appelle Océane, qui couvrait le 93 Sud, a été intégré à l'hôpital et donc est devenu une équipe mobile extra-hospitalière, donc qui fait du soin palliatif à domicile dans le 93 Sud. Une population aussi un peu particulière, avec quand même beaucoup de précarité, d'où la complexité aussi derrière de certaines prises en charge, et est en train de se créer une deuxième équipe mobile extra-hospitalière, une équipe mobile territoriale pour, alors plutôt de notre secteur à nous, le 11e, 12e et 20e. Voilà un petit peu toute l'offre de soins palliatifs. Alors, moi je suis arrivée il y a 3 ans, donc je n'ai pas connu la création de l'hôpital de jour. Donc aujourd'hui, je coordonne cette activité. J'ai beaucoup discuté avec les anciens, beaucoup ont quitté le service. Alors vous allez voir, nous, au départ, c'était un peu du bricolage, et ça va d'ailleurs être tout l'enjeu de maintenant. L'hôpital de jour, il a été créé pour répondre à un besoin. Il y avait vraiment une collaboration avec une HAD Croix-Saint-Simon, qui avait une très grosse branche palliative, et qui avait besoin d'un relais hospitalier, en tout cas pour certaines prises en charge, et avait besoin de soutien. Et donc ils ont créé un peu ça, avec au départ un lit, un petit bureau. C'était balbutiant au départ, avec un patient parfois par jour, puis des annulations. Et puis, particularité, avant d'avoir du personnel, il faut pouvoir prouver l'activité. Donc à cette époque-là, c'était un médecin de la salle qui se... C'était un médecin de la salle et une infirmière qui se détachaient de la salle d'hospitalisation classique pour aller rencontrer les patients d'hôpitaux de jour. Donc une organisation vraiment un peu de briques et de broc. Et pareil pour tous les personnels transversaux, que ce soit le kiné, les psychologues, l'art thérapeute que je vais vous présenter après, ou la biographe. L'hôpital de jour naissait à partir de la salle. Donc une activité débutante, mais qui est devenue assez rapidement plus importante. Alors j'ai dit de petit, on est devenu grand. Ben, finalement, on est encore petit comparé à d'autres. Mais en 2012, c'était quelques HDJ, puis on est monté progressivement en charge. Et en 2025, c'est 384 HDJ de soins palliatifs. Alors là, je ne l'ai pas précisé sur les diapos, mais c'est couplé à l'HDJ soins palliatifs aussi une activité douleur chronique qui complique encore plus notre organisation. Mais en tout cas pour l'HDJ soins palliatifs, les chiffres, 122 patients suivis sur l'année, et puis vous verrez qu'on a des suivis parfois très longs sur des mois, et puis des suivis parfois plus courts avec des patients qui nous quittent assez précocement. L'équipe, alors autour du malade, il y a forcément en soins palliatifs une équipe pluriprofessionnelle, donc on s'est un peu mieux organisé, même si c'est encore compliqué et j'en reparlerai après. Donc on est 2 médecins, on est au total 9 médecins sur toutes les activités que je vous ai présentées, 2 médecins formés à l'hôpital de jour, et on alterne un peu comme nos infirmières coordinatrices. qui sont 4 à l'heure actuelle. Et on alterne parce que l'hôpital de jour de soins palliatifs, c'est quand même vraiment une activité lourde, moralement, physiquement. Et l'année 2025 a vu de nombreux arrêts maladie parmi nos infirmiers coordinateurs, ce qui a encore plus complexifié nos prises en charge. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un peu une bouffée d'air parfois. Et donc, en ce qui concerne les médecins, ils tournent sur l'unité d'hospitalisation et l'hôpital de jour, un peu toutes les 6 semaines. Et sur les IDEC, bah, c'est encore en cours de réflexion. Il faut aussi arriver à ce que tout le monde ne tourne pas en même temps pour que bah, le patient n'en pâtisse pas. 2 secrétaires pour les activités, USP et HDJ, qui tournent aussi. Et puis surtout, tous les autres intervenants du service, donc l'assistante sociale qui chez nous a un rôle clé. Tous les jours, on se dit qu'on a de la chance parce qu'effectivement, vous ne ferez pas de maintien au domicile s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas de matériel. Les kinés pour l'évaluation de l'autonomie, pour l'aide à la marche, le maintien de l'autonomie le plus longtemps possible, c'est vraiment une priorité pour nous. Plus longtemps ils resteront à la maison, moins ils seront hospitalisés, mieux ils seront. La prise en charge psychologique est par nos psychiatres, hein, pour une évaluation régulière, pour l'adaptation des traitements. Ils ont un autre regard aussi sur les prises en charge. Et puis après, tout ce qui est bien-être, donc notre socio-esthéticienne, l'art thérapeute, la biographe hospitalière, si certains de nos patients veulent laisser une trace écrite. Et puis bien évidemment, qui dit fin de vie, dit religion pour certains, en tout cas. Et donc on a tous les représentants des cultes qui peuvent passer en hôpital de jour, tout comme en hospitalisation. Et de nombreux bénévoles. Alors on est un lieu de stage, hein, et on voit beaucoup de nos collègues venir de toute la France parce qu'on sait qu'il y a des hôpitaux de jour qui sont en cours de construction en soins palliatifs. Alors nos patients, bah, je vous ai dit, hein, un patient en situation palliative, c'est un patient qui ne guérira jamais, mais il y a des profils très différents. Certains ont encore des traitements oncologiques en cours et on les voit par exemple pour des problématiques de douleurs rebelles. Et puis certains sont vraiment en situation de fin de vie proche. L'âge moyen, bon, 68 ans, mais on a une filière jeune adulte adolescent dont je vous parlerai un tout petit peu après, qui fait que bah, la moyenne d'âge elle diminue un peu. Beaucoup d'onco-hémato, 90%, mais aussi des pathologies neurodégénératives. Il y a vraiment une coordination qui est en train de se mettre en place entre les services de neuro et nous pour tout ce qui est patient de type SLA, par exemple. Et puis un peu de gériatrie, en sachant que les prises en charge de fin de vie qu'on a en USP et en hôpital de jour, ce sont forcément les plus complexes. Tout le monde ne meurt pas dans une unité de soins palliatifs, heureusement, parce qu'on ne pourrait pas forcément accueillir tout le monde. Donc on a quand même des prises en charge qui sont plus compliquées. Sinon, la plupart de nos patients gériatriques décèdent dans les services de gériatrie. On s'occupe des patients d'Île-de-France et vous verrez que c'est déjà compliqué. Et donc en hôpital de jour, le but est d'être en soutien des patients qui sont encore à domicile ou dans une structure médico-sociale qui vaut pour domicile, EHPAD, foyer. Alors on a de plus en plus, je vous rejoins, de patients en situation de précarité. Donc on fait de plus en plus de prise en charge avec des patients qui sont à l'hôtel, au mieux. Ce qui complexifie encore nos prises en charge. Voilà, la grosse plus-value de la HDJ, c'est qu'elle nous permet de voir les patients avant qu'ils sortent de leur service de référence pour adapter déjà ce qui va se passer à la maison. Ça nous permet de faire sortir des patients d'USP à la maison tout en continuant à les suivre. Donc c'est vraiment une plus-value pour nous tous. Voilà, et puis donc je vous ai parlé un petit peu de cette activité de douleur chronique qui financièrement est très rentable, mais qui coûte beaucoup en énergie, en temps et en place d'hôpitaux de jour. Alors l'HDJ classique, je vais aller très vite, mais c'est vraiment un HDJ particulier en soins palliatifs parce que vous passez un temps fou à discuter avec les patients et leurs proches. Hein, donc on accueille tout le monde et on souhaite le plus possible que les proches, les aidants soient là. Donc il va y avoir un très long entretien sur comment la situation évolue, quels sont leurs souhaits, quelles sont leurs difficultés, comment on peut les aider. Il y a évidemment tout le côté somatique, hein, avec l'examen clinique, les prises de constantes. On fait aussi des gestes qui sont quand même très techniques, même si on en fait sûrement moins que dans d'autres hôpitaux. Et puis après, on va faire intervenir, alors vraiment l'hôpital de jour de soins palliatifs, le patient ne quitte pas la chambre, hein, il ne part pas faire des examens à droite à gauche, on vient à lui pour le mobiliser le moins possible, pour le fatiguer le moins possible. Et donc vont défiler, entre guillemets, auprès de lui, tous les intervenants qu'on aura jugés nécessaires. Alors, sachant qu'on prévoit, on essaie d'anticiper un peu, mais ce sont des patients tellement fragiles, bon, l'évolution est vraiment imprévisible, la situation elle peut varier d'une semaine à l'autre, ce que vous aviez prévu une semaine plus tôt ne tient plus la semaine suivante. Donc oui, on essaie d'anticiper et on est souvent pris en défaut, mais bon, ça fait partie de notre activité. Et puis bah, pour la sortie, forcément, le patient va... Alors, s'il rentre à la maison, quand même la majorité des cas, il va falloir faire du lien avec les acteurs qui vont continuer à le prendre en charge le lendemain et les jours suivants. Donc il y a vraiment une activité d'appeler le médecin traitant, s'il y a un médecin traitant, les infirmiers ou les aidants s'ils n'ont pas pu être là pour bah, leur expliquer ce qui s'est passé pendant l'hôpital le jour, leur expliquer les modifications de traitement, les protocoles de pansement qui ont changé. Et si vous ne faites pas ça, vous renvoyez votre patient, mais il va revenir très très vite via les urgences ou par téléphone. Voilà. Et puis tout ce qui est lié à la prise en charge palliative avec les fiches SAMU-PALIA, hein, parce que malheureusement, malgré toutes nos anticipations, bah, parfois le SAMU intervient. Il faut surtout qu'il puisse savoir quelle est la situation actuelle et le type de prise en charge souhaité. Les missions, bah, je vous en ai parlé un petit peu déjà et je vais aller vite, hein, mais c'est vraiment, on a un très très long temps. Sur les directives anticipées, les souhaits, la personne de confiance. Alors en ce moment, on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'euthanasie. On parle beaucoup de sédation profonde et continue. Et c'est plutôt pas mal, mais c'est une complexité supplémentaire. Et puis après, effectivement, toute la prise en charge globale que je vous ai déjà décrite. Alors avec quelques particularités quand même qui sont liées à notre hôpital de jour. On a une compétence douleur rebelle, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont très douloureux, avec de nombreuses lignes de traitement qui ont été tentées, parfois avec échec. Et donc on gère par exemple les pompes intrathécales, et on n'est pas nombreux à le faire, on utilise des molécules que peu utilise la méthadone. Donc vraiment, on voit des patients parfois en cours de prise en charge oncologique, mais pour lesquels on est obligé de stopper la prise en charge oncologique pour un problème de douleur. Donc vraiment un sous-type de population un peu particulier, avec une espérance de vie qui est quand même souvent plus longue. On est en train de créer une filière adolescents, jeunes adultes, hein, avec certains services de pédiatrie en Île-de-France, l'Institut Gustave Roussy, la clinique Édouard Rist. Et donc ça aussi, c'est une population un peu particulière. Demain, je vois une jeune fille de 15 ans, ben, j'avoue que c'est compliqué. Voilà. Ça rajoute un peu à la charge mentale. Et puis, on parlait un peu de transculturel. Donc moi, je suis formée à la médiation transculturelle. On a une population qui est de plus en plus multiculturelle. J'ai repris les chiffres. En 2024, dans l'unité, on a quand même un patient sur cinq, hospitalisé HDJ compris, qui est né ailleurs, qui vient d'ailleurs. Et donc des prises en charge, alors parfois des patients qui sont allophones, prises en charge qui sont encore plus compliquées. On a la chance d'avoir un accès illimité à l'interprétariat, mais ça prend du temps. Et on a la chance finalement de lancer cette activité de médiation transculturelle et on commence à en faire en hôpital de jour. Ça nous permet de réunir dans la même pièce le patient, ses proches, le côté médical avec un interprète médiateur. C'est souvent très très bénéfique pour tout le monde, hein, parce qu'il y a souvent des incompréhensions, mais ça prend aussi un temps assez important. Et puis vraiment notre HDJ il est quand même tourné vers le domicile et c'est comme ça qu'on tient. Je vous ai déjà parlé du réseau Océane, de l'UMSPT, mais on travaille beaucoup avec les HAD, on en a parlé tout à l'heure, les réseaux de soins PAL qui sont en train de devenir équipe mobile extra-territoriale, et les infirmiers et infirmières libérales. Les soins réalisés, je vais aller vite, on est en unité de soins palliatifs. Pour arriver à faire un bilan biologique par nos infirmières, il faut que vous sachiez pourquoi vous le voulez. Parce que si vous n'avez pas un objectif thérapeutique derrière, la prise de sang, elle ne sera jamais faite. Donc tout est réfléchi, mais on a quand même certaines choses à faire. Les ponctions d'ascites, on a des patients qui arrivent très douloureux et donc ils ne repartiront pas sans être soulagés. Les pompes intrathécales, je vous en ai parlé, on a aussi beaucoup, beaucoup de pansements complexes. Hein, les plaies néoplasiques, ce sont des pansements qui sont difficiles. On a des infirmières qui sont formées. Et parfois des perfusions, parfois des transfusions, mais c'est vraiment très très rare. Et puis donc cette activité de médiation transculturelle. Alors, bah, nos points forts, On a vraiment le temps. On prend, en tout cas, on le prend, ce temps, parce qu'on est vraiment dans un contexte un peu particulier, qui est la fin de vie. Si on ne le fait pas en hôpital de jour, si on ne le fait pas dans nos services, je ne vois pas où on le ferait. Cette équipe pluridisciplinaire qui est autour du patient et des proches, avec de nombreux intervenants transversaux. Alors, une des spécificités de notre HDJ, c'est cette ligne téléphonique. C'est-à-dire que dans la poche de nos infirmiers coordinateurs, il y a un téléphone, une ligne dédiée, que ce soit aux patients, aux proches, mais aussi au personnel de ville qui prennent en charge nos patients. Et notre objectif, c'est d'être joignable H24. Alors, ça permet d'avoir beaucoup de réactivité. Un patient qui nous appelle en disant « j'ai mal », eh ben, il a forcément une réévaluation téléphonique. Ou par téléconsultation, il a forcément une adaptation de ses traitements, il passe chercher l'ordonnance, un proche passe chercher, on faxe aux pharmacies pour que le patient puisse avoir ses traitements. Ça prend du temps, mais ça permet que nos patients soient confortables à la maison. Donc cette ligne, c'est vraiment un plus. On verra aussi que ça a des effets un peu plus négatifs, mais bon. Voilà, on est vraiment, vraiment en soutien. Il faut savoir que la plupart de nos patients ont parfois des médecins généralistes, non plus de médecins généralistes qui vont à domicile, ça c'est une denrée très très rare. Nos patients ont sont dans un état très fragile, ne peuvent plus se déplacer. Si nous, on n'est pas réactif par téléphone derrière, personne n'ira à la maison, ça veut dire qu'ils finissent aux urgences. Et ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment un échec, parce que imposer à un patient qui est en fin de vie de patienter 12 heures sur un brancard, j'espère que ça ne sera jamais mon cas. Le fait qu'on soit réactif permet aussi de faire passer en urgence, si vraiment on ne peut pas hospitaliser ou si vraiment c'est le souhait du patient de décéder à domicile, le réseau Palidom, c'est une branche de l'HAD de la PHP qui fait des prises en charge palliatives en urgence à domicile. Et même notre réseau, l'équipe mobile extraterritoriale, fait de plus en plus de prises en charge en urgence, c'est-à-dire qu'on y va, on perfuse. On fait ce qu'il faut pour que le malade reste à domicile quand c'est son souhait et décède à domicile dans les meilleures conditions. Voilà. Et par contre, alors tout ça, ça a aussi des points négatifs. La ligne téléphonique, c'est positif, mais alors c'est un facteur d'interruption de tâches au quotidien. Je pense qu'il sonne, il y a des jours, c'est sans arrêt. Et puis c'est un épuisement. Alors j'ai mis des infirmiers coordinateurs, parce que ça a vraiment participé à l'épuisement qu'on a noté en 2025, mais des médecins aussi. Mais c'est nécessaire, ça fait partie de la complexité de notre tâche. Alors une file active de patients importants, c'est vrai que comparé à ce qui est décrit dans certaines structures, c'est pas beaucoup, mais 40 patients que vous avez en charge quand vous êtes le médecin au bout du fil par jour, 40 patients, si les 40 ont décidé de vous appeler parce qu'ils ont mal ce jour-là, je peux vous dire que votre journée elle devient vite un enfer. Donc on parlait de lissage tout à l'heure, et c'est vrai que je vois bien qu'on est en pleine réflexion. C'est compliqué les urgences, qu'elles soient en présentiel quand le patient arrive ou par téléphone. Ça met souvent très rapidement le chaos et ça fatigue. On a en ce moment, mais ça je vous l'apprends, je ne l'apprendrai à personne, un manque de relais en ville. Les médecins traitants qui vont à domicile, ça n'existe plus. Et donc on devient médecin traitant, c'est-à-dire je renouvelle toutes les ordonnances de mes patients régulièrement pour leur éviter de devoir aller au cabinet. La ligne, je ne suis pas là du matin au soir, jour et week-end compris, nos infirmiers coordinateurs non plus, donc elle est basculée sur l'hospitalisation pour qu'on reste joignable H24. C'est aussi une charge en plus sur les équipes d'hospitalisation qui ont aussi pas mal à faire, mais on voit à chaque fois à quel point c'est bénéfique. Et pour un de nos patients, rester seul, sans recours pendant tout un week-end, ça peut paraître long. Une programmation alors complexe, anticipée en soins palliatifs, c'est compliqué parce que le planning, il change tout le temps. Vous en hospitalisez en urgence, il y en a un qui est décédé. C'est vraiment au jour le jour. Vous avez un créneau qui se libère, puis vous dites, il y en a un qui est douloureux, que j'arrive pas à soulager avec mes adaptations par téléphone, donc vous le faites venir plus vite. Donc vraiment, ça nécessite quand même beaucoup de souplesse et on va voir que c'est une problématique. Et puis alors notre collègue de Lyon, elle a un peu parlé des ambulances. Je suis très étonnée que personne d'autre n'en ait parlé, mais chez nous, les ambulances, c'est l'horreur. C'est-à-dire que entre ceux qui ne vont pas chercher les patients, ceux qui viennent avec retard, ceux qui les font attendre à la fin de l'hôpital de jour pendant 3 heures, Enfin, c'est vraiment, vraiment une difficulté au quotidien pour nous, et c'est d'ailleurs un point qu'on est en train d'essayer de travailler avec l'administration de notre hôpital. Alors, on a commencé petit, de briques et de braques, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, bah, l'activité, elle a augmenté, et puis surtout, elle continue à augmenter, la demande, elle est énorme, et donc, on est arrivé à la conclusion, il n'y a pas longtemps, que ça ne fonctionnait plus, en tout cas, comme ça. Et du coup, on a un peu alerté nos administratifs. Alors, on est une petite structure, ce qui permet quand même qu'il y ait de la communication facile. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on remette tout à plat et qu'on voit comment on pouvait faire mieux. Mieux pour les patients, mieux aussi pour les soignants. Le planning, alors notre planning, nous, il y a une partie informatisée, puis il y a une partie papier. Je ne vous la montrerai pas parce qu'elle vous ferait hurler, je pense. Et en même temps, c'est ce qui permet la souplesse. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à informatiser tout ça. Donc il va falloir informatiser plus l'hôpital de jour. Comment faire tourner les équipes médicales et paramédicales sans qu'elles s'épuisent, sans qu'il y ait des arrêts, parce que qui dit arrêt, dit hôpital de jour avec certaines plages fermées, donc moins de possibilités pour nos patients. L'activité de l'hôpital de jour, c'est vraiment, pour avoir fait un peu toutes les activités du domicile à l'hospitalisation, c'est vraiment la plus compliquée et la plus lourde émotionnellement, je trouve. Et puis, comment mieux se coordonner avec les intervenants extérieurs, mais bon, ça, c'est un peu compliqué. Et par rapport aux ambulances, vraiment, c'est une problématique, parce que nous, on a envie de grandir encore plus. On pense qu'on est vraiment un plus pour nos patients. On nous appelle du 92. Ben, le 92, c'est pas possible, et je refuse des patients parce que je sais que le début de la prise en charge va se faire correctement, ils viendront par leurs propres moyens, et puis dès qu'ils auront perdu en autonomie, en fait la prise en charge s'arrête brutalement, où il y a besoin d'une hospitalisation et après d'une autre structure, mais c'est très mal vécu par les patients, c'est très mal vécu par l'équipe. On en est là, je vous parle du 92, mais en ce moment j'ai du mal à trouver des ambulances pour aller chercher mes patients dans le 19e, je suis dans le 12e. Et en fait, grandir, oui, ça nécessiterait plus d'organisation et tout, mais grandir sans qu'on puisse amener les patients en hôpitaux de jour, moi, je ne sais pas comment faire. Voilà, je vous ai mis le numéro de l'hôpital de jour, si un jour vous aviez besoin de nous, n'hésitez pas, hein, parce qu'on est quand même... on voudrait pouvoir aider au plus possible. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.
Merci beaucoup, Laure. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Cyril Amazou, je travaille pour dans le groupe du Val de Santé. Je m'occupe des parcours de médecine et, entre autres, on travaille sur l'FDG soins palliatifs. Et alors, vous avez commencé, je pense, à répondre un peu à ma question. Quand on parle des propos de Virginie tout à l'heure, lissage, anticipation, programmation, je vais oser le dire. L'HDJ soins palliatifs, c'est un peu aux antipodes, puisque c'est du sur-mesure, c'est s'adapter sans arrêt aux patients, c'est mettre de l'urgence entre deux, c'est pas de la programmation. Donc comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un créneau horaire moyen? Est-ce que vous limitez à tant de patients par demi-journée? Je sais pas. Voilà.
Alors, ça a été beaucoup ma réflexion cette dernière année, parce qu'effectivement, en fait, il y a besoin des deux. Et les deux ne sont pas forcément compatibles. Donc, il y a besoin d'un HDJ comme il nous a été présenté, coordonné, anticipé, Et on avait plutôt une réflexion sur plus on les voit souvent, donc on essaie de raccourcir. Au départ, quand l'HDJ a été créé, mes collègues voyaient chaque patient tous les mois. En fait, ça me semble complètement inadapté maintenant, parce qu'on a quand même des patients aussi. Il faut savoir que nos patients, les oncos, les poussent de plus en plus loin. On a des patients qui ont des lignes de traitement. Ils arrivent parfois en soins palliatifs vraiment au bout du bout du bout. Donc, les patients très fragiles, les voir tous les mois pour certains, c'est illusoire. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de voir des patients une fois en hôpital de jour et me dire « je ne les reverrai plus en hôpital de jour, la fois suivante, ça sera en hospitalisation pour une fin de vie ». Les patients qu'on hospitalise, qui sont suivis en hôpital de jour et qu'on hospitalise, en général, ils ont une durée de vie, ils décèdent très très rapidement en USP parce qu'ils arrivent vraiment quand c'est la fin. Tout ça pour dire que je pense que déjà si on raccourcit la durée entre deux rendez-vous d'hôpitaux de jour, on arrive quand même à mieux anticiper, parce que quand vous n'avez pas vu un patient pendant un mois, des fois vous avez des très très grosses surprises. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut garder une activité régulière parce qu'on a des patients qu'on voit pendant un an, deux ans. Ceux-là, ils ont vraiment besoin de ce suivi-là. Et alors, pour les urgences, donc effectivement, la ligne téléphonique nous permet de gérer pas mal de choses par téléphone. Hein. On fait quand même énormément de trucs. Mais je me suis dit, eh ben, parfois, il y a quand même besoin d'hôpitaux de jour en urgence. Alors, les hôpitaux de jour en urgence en soins pâles, c'est souvent finalement des hospitalisations. Et donc, on a retravaillé donc, avec l'ensemble de mes collègues. Ce qui était convenu jusque-là, c'était on a 20 lits d'hospitalisation et on en gardait toujours plus ou moins un pour les hospitalisations en urgence du domicile. Ce qui, d'un point de vue de l'administration, est une hérésie. Voilà, donc on a acté, ça a été compliqué, on a travaillé avec toute l'équipe, tous les soignants, on a acté qu'on ne gardait plus ce lit d'urgence, donc on peut être, on est en permanence à 20 patients dans l'unité, hein, sauf décès, hein, bon, voilà. Mais on a créé ce qu'on appelle un lit d'urgence, donc un 21e lit avec les effectifs pour 20, mais qui nous permettait, nous, en hôpital de jour, d'avoir quasiment la garantie que si vraiment votre patient, il faut l'hospitaliser, ben, parce qu'il est très symptomatique, hein, je parle de symptômes, fin de vie proche, on peut sur ce 21e lit, sachant qu'on finalement on l'a quasiment pas fait, parce qu'on arrive quand même toujours, on est un service où malheureusement il y a beaucoup de départs, d'arrivées, on arrive souvent à trouver quand même un lit, on pousse parfois les murs, mais on trouve. Mais du coup on a créé ce lit-là justement pour s'adapter à l'urgence de nos patients en hôpitaux de jour. Et puis, on a la chance d'avoir Palidome. Et Palidome, nous, moi, j'ai un patient qui est à domicile, qui ne va pas bien. Il faudrait que je le revoie en hôpital de jour, mais je ne peux pas. Et ben, on appelle Palidome. Et Palidome, il va à domicile et il fait ce qui est nécessaire dans l'urgence. Voilà. Donc, je sais, hein, l'hôpital du jour, ça paraît être une activité qui doit être très structurée, très organisée. Avec la population de patients en soins pâles, c'est compliqué, mais néanmoins, je pense que vraiment, il faut qu'il y ait un peu une filière urgence, bah, comme ce qu'ils ont fait un peu à Lyon, c'est-à-dire, c'est de l'hôpital le jour, mais souvent, nous, ça finit en hospitalisation, et puis l'activité classique qui, elle, doit continuer, parce que si j'annule un hôpital le jour pour un patient, en ce moment, on a des délais d'attente qui sont plus que conséquents, ça veut dire que je ne vais pas le voir avant 4 semaines encore, c'est pas possible, en fait. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais c'est une prise de tête quotidienne. Hein,
Moi, j'avais une question. Comment vous gérez le drame de la ligne téléphonique, qui est l'interruption de tâches permanentes et donc la charge mentale qui fait perdre des équipes entières, la non-valorisation de cette activité, la difficulté de la quantifier, et donc pour avoir l'effectif derrière, et la non-traçabilité?
Alors, pour la première partie de la question, je répondrai après. La deuxième, ça a été vraiment une des réflexions que j'ai eues en 2025 en disant « c'est pas possible ». Quand j'ai 20 coups de fil par jour, ça ne peut pas, un, ne pas être tracé, parce que c'est aussi des modifications thérapeutiques, donc il faut que ça apparaisse dans les dossiers des patients. Deux, ça ne peut pas être non connu de nos administratifs. Ça fait partie de notre activité parce que on s'entend plutôt bien avec notre administration et ça se passe bien, mais on a quand même souvent, bah, vous êtes 9 médecins, mais vous n'avez que 20 lits d'hospitalisation, mais vous oubliez qu'on gère l'hôpital le jour, l'équipe mobile intra, l'équipe mobile extra. Voilà. Donc il fallait qu'on trace un peu tout ça et donc on le fait sous forme de téléconsulte. Et je me suis battue pour ça. Alors c'est de la bricole encore, c'est-à-dire que quand j'ai un patient qui m'appelle et que je sens que ça va être compliqué, soit il peut me rappeler un quart d'heure plus tard et je crée ma téléconsulte et je le fais en téléconsulte, et sinon je le cote en téléconsulte à un moment ou à un autre parce qu'il faut qu'on sache que bah, parfois je suis appelée 20 fois dans la journée en plus de mes hôpitaux de jour classiques et des infirmiers coordinateurs pareil. Donc on arrive à le tracer, on arrive à faire remonter cette activité quand même en disant bah voilà, notre activité de téléconsulte elle explose parce que c'est...
Informatique, il faut pouvoir y arriver et ça limite quand même les possibilités.
Alors ça limite, d'où le rôle des aidants. Et sans aidants, nous on ne fonctionne pas. C'est-à-dire que oui, j'ai des patients qui ne peuvent plus répondre au téléphone, mais souvent il y a un conjoint, un enfant et qui lui peut nous appeler et qui peut gérer Doctolib parce que notre logiciel c'est Doctolib. Voilà. un patient qui est vraiment isolé, j'en ai quelques-uns en hôpital de jour, où vraiment il n'y a personne autour, ça ne tient pas longtemps, parce qu'effectivement, il faut un relais. Mais donc oui, on arrive à faire des téléconsultes, pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, on essaye de montrer qu'il existe cette activité-là. Après, pour la première partie, la charge, je n'ai pas de remède miracle, c'est-à-dire qu'il y a des journées plus cool. Il y a des journées où vous avez juste envie de rendre votre tablier, de vous barrer. Ça fait partie de la prise en charge. Après, c'est les patients qu'on connaît bien, c'est des prises en charge qui sont comme... Enfin, les soignants de soins palliatifs, comme beaucoup, enfin, comme quasiment tous les soignants, ils sont hyper investis. C'est des patients qu'on suit. Ça a du sens. Mais oui, on a perdu plusieurs IDEC en 2025 qui ont claqué la porte en disant « c'est pas possible, je n'y arrive plus ». D'où le fait de tourner régulièrement, d'avoir des moments de... On a des groupes de suivi pour tous les soignants. C'est, de toute façon, la prise en charge palliative, c'est compliqué. Hein.
Pourquoi c'est plus dur, normalement, à passer en hospice, parce que c'est aussi l'hospice de soins palliatifs?
Parce que l'hospice de soins palliatifs, en fait, tout est un peu dilué sur le temps. C'est-à-dire que vous allez l'avoir à un moment, il va vous dire « j'ai peur, je vais mourir ». Et puis, il va le dire à un autre soignant. Même nos ASH qui vont faire le ménage dans la chambre sont parfois, reçoivent ce type de message et peuvent discuter avec nos patients. C'est vraiment dilué dans le temps et sur l'ensemble de l'équipe. Quand vous êtes médecin à l'hôpital de jour avec un infirmier coordinateur, vous êtes pendant 3 heures face à un patient. Alors parfois, il n'y a pas de discussion très dure. Et parfois, vous recevez toute la colère, toute la détresse en pleine figure. Prenez ça pendant 3 heures, il faut que vous fassiez toutes les modifications thérapeutiques, tous les comptes rendus, vous passez tous les coups de fil. Il est 13 heures, vous en avez un autre qui arrive, parce que nous on fonctionne plutôt comme ça. L'hôpital de jour qui parfois se prolonge plus tard, et puis il y en a un qui arrive à 14 heures, et parfois quand on sent que c'est des prises en charge un peu plus légères, on arrive à faire 3 hôpitaux de jour dans la journée, mais déjà on tire un peu la langue. Voilà, mais ça veut dire que vous vous prenez tout pendant 3 heures, et puis après bah, vous réenchaînez avec le patient de l'après-midi. Et vraiment, c'est des prises en charge. Alors parfois, c'est des patients qui arrivent, les premiers hôpitaux de jour, c'est des patients qui... Enfin, le système de santé français va mal, je l'apprends à personne, mais on a parfois des patients qui ont des années de suivi oncologique, avec des prises en charge qui sont de plus en plus déshumanisées. Je pense que nos collègues oncologues font tout ce qu'ils peuvent, enfin, je tape sur personne, hein, on en est tous là, mais avec des patients qui arrivent, qui n'ont pas forcément compris... ce que veut dire soins palliatifs. Alors encore plus quand il y a une barrière de la langue. Hein. Moi, j'ai fait des entretiens avec un interprète. Bah, vous avez juste l'impression d'être violent parce que bah, vous lui annoncez, il n'a pas compris qu'il était en soins palliatifs, donc c'est vous qui faites l'annonce avec tout ce qui va avec. Alors, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi beaucoup de retours au pays pour mourir du fait de notre population. Donc, on a des patients qui arrivent et parfois, le premier HDJ, ben, vous prenez tout sort, quoi, toute la colère face à au système, au parcours, parce que c'est vraiment le problème, c'est les parcours de soins. Hein. Certains n'ont jamais vu de psychologue. Enfin, bon, c'est compliqué. Et on est vraiment en bout de chaîne avec, en plus, la perspective de la mort bientôt.